Et lorsqu'on entend Mélie, là, c'est donc une musique. Hein.
Oui, oui, oui.
Devant, il y a un monsieur qui danse.
Effectivement.
Et c'est l'un des patrons les plus puissants de la planète.
Mais c'est une danse plutôt gênante. Hein. C'est très maladroit et c'est une danse d'Elon Musk, le patron de Tesla. Son talent, lui, c'est vraiment plus les voitures électriques de luxe. Danse de la joie pour célébrer la sortie des premiers véhicules fabriqués en Chine. La toute première fournée vient d'être livrée dans la méga-usine de Shanghai. Ces voitures ont été livrées à des employés qui avaient passé commande des modèles 3. C'est l'entrée de gamme chez Tesla. La modèle 3 coûte quand même l'équivalent de 46 000 euros. Et le groupe américain a bien l'intention d'envahir massivement le marché chinois. À terme, 3 000 véhicules pourraient sortir chaque semaine des chaînes de montage chinoises. Cette usine de Shanghai, elle a été inaugurée il y a un an. À l'origine, elle a été pensée pour contourner la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, à coup de surtaxes douanières sur les produits importés de chaque côté. Le but, c'est aussi de conquérir le plus vaste marché au monde de voitures électriques. Et voilà Elon Musk qui dit « Je crois que ce serait super cool, et on va le faire d'ailleurs, de créer un centre d'ingénierie et de design en Chine pour dessiner une voiture originale en Chine pour la consommation mondiale. Ça va être très excitant. Je crois que la Chine possède parmi les plus beaux arts du monde. » Ouais, voilà, il sait comment conquérir son public, Elon Musk. Hein. Il les flatte, les Chinois, et Tesla, l'américaine, bénéficie effectivement d'un traitement de faveur assez remarquable en Chine, là où d'habitude Pékin impose aux groupes étrangers de nouer des alliances avec une entreprise locale pour s'installer sur le sol chinois. Là, Tesla détient la totalité de l'usine de Shanghai. Les autorités ont même accordé une exonération de taxes pour les acheteurs de Tesla made in China et une subvention.
À Moscou, Amélie, des médecins démissionnent.
Et c'est très révélateur des défaillances du système de santé en Russie. Je vous parle ce soir d'un service de cancérologie pour enfants dans la capitale, le centre d'oncologie Blokhine, un énorme bâtiment gris des années 70. Blokhine que les patients et leurs familles ont rebaptisé Blokhinwald, en référence à Buchenwald, le camp en Asie, tant les locaux sont dégradés. Pas de ventilation, des murs moisis, des chambres surpeuplées. Une vingtaine de médecins viennent de poser leur démission pour dénoncer des conditions de soins monstrueuses, disent-ils. Écoutez le docteur Dolgopolov au micro de l'AFP. Ma décision de quitter ce centre où j'ai travaillé 22 ans, dit le chirurgien, pour changer de lieu de travail, est due au fait que mes idées sur la moralité et l'éthique, sur ce qui est bon ou mauvais, ne coïncident pas avec la direction de l'institut. Car au-delà des bâtiments en ruine, il n'est pas rare en Russie de devoir verser un pot de vin pour bénéficier d'un service public. Les moyens des hôpitaux n'ont cessé d'être amputés depuis la chute de l'URSS. L'État ne finance par exemple plus toutes les greffes. Ces médecins démissionnaires ont alors monté des fondations privées pour pouvoir payer ces greffes à des patients démunis. Ils ont été accusés de détournement et d'enrichissement personnel et finalement ils ont été blanchis. Ce qui fait le plus peur aux patients aujourd'hui, ce sont les changements de protocole. Des médicaments étrangers ont été remplacés par des produits russes, moins chers. Moscou veut encourager son industrie pharmaceutique, la préférence nationale dans le médical. Oui mais voilà, le mois dernier, deux adolescents sont morts après un changement de traitement. Et l'Institut Blokhine n'est pas un cas isolé. Sous prétexte d'optimiser le secteur de la santé, les hôpitaux russes dans les campagnes sont fermées et de nouveaux très sophistiqués sont construits dans les villes. Les cliniques privées chères ne s'adressent qu'aux plus riches et dans ce pays immense, il faut souvent faire 200 km pour être soigné. Selon un chiffre de l'OCDE, la Russie consacre seulement 3% de son PIB aux dépenses de santé, 3% contre près de 10% en France ou en Allemagne. Le président Poutine a promis récemment d'investir des milliards dans les années à venir. Les médecins, les soignants et les étudiants en médecine n'y croient plus beaucoup.
Allez, on termine avec des nouvelles de Michelle Obama.
Et oui, après une tournée mondiale et bien triomphale pour son livre Becoming, vendu à des millions d'exemplaires, l'ex-première dame débarque sur Instagram.
My name is Regan Dunn.
My name is Hasib.
Lynette Delgado.
Robert Booker.
Each of them has overcome tremendous
odds. Vous avez entendu des jeunes et là c'est Michelle Obama qui nous explique que sur son Instagram TV, elle va suivre le parcours de ses étudiants, partager les hauts et les bas de leur première année. Les jeunes sont blancs, noirs, latinos, toute la diversité des États-Unis et ils ont traversé pas mal d'épreuves pour arriver jusqu'à l'université, nous dit Michelle Obama. Le but en fait c'est d'inspirer d'autres jeunes, d'inciter même ceux issus des milieux les plus défavorisés, les encourager à faire des études comme elle. Une autre manière donc de faire de la politique. Instagram, ça sert à ça aussi.
Voilà.